Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado d'LNH.com, Nicolas Ducharme au micro. Je vous parle en début de soirée, et même ça va aller jusqu'à la fin de la soirée, en ce 28 juin, jour de la deuxième et septième ronde du repêchage de la LNH. Hier, le 27, la première ronde, tout ça se déroulait en direct du Peacock Theater de Los Angeles. Et mes deux invités avec moi aujourd'hui, ils étaient là du côté de Los Angeles. Guillaume Lepage, salut Guillaume!
Salut Nick, avant de poursuivre, je voudrais juste souligner que le 28 juin, c'est une grande journée parce que c'est la fête de celui qui joue à nous à l'instant.
Monsieur Chaumont, bonne fête!
Merci, que du bonheur de célébrer son anniversaire dans le contexte d'un repêchage extraordinaire du côté du Peacock Theater. Les minutes étaient parfois longues, je dirais.
Ça n'a pas été ton anniversaire le plus divertissant, on peut dire de la sorte.
Écoute, une fête aux côtés de Guillaume, ça reste toujours un grand bonheur. Il y avait Simon-Olivier Lorange qui a comme réputation d'avoir un des plus beaux sourires sur Terre.
Part animal.
Josh Clipperton, dont on vous parle souvent, Clip, probablement qu'en soirée, il va sortir son plus beau t-shirt blanc ou gris, était également présent. Donc, il y avait autant de journalistes pour cette deuxième journée que de jeunes espoirs qui avaient le bonheur d'entendre leur nom. Donc, oui, mais contexte assez étrange pour vieillir, je dirais.
Oui, c'est ça, exactement. Étrange aussi pour Guillaume, je ne sais pas, ça fait combien de repêchages tu couvres. GF, ça en fait une coupe, là. C'était un repêchage décentralisé cette année. Bon, je pense que le format, ça a été parlé un peu. Je pense qu'on va. Soit on va peaufiner, ou du moins, ce qu'on a dit du côté de la Ligue nationale, on va peut-être réévaluer un peu le tout pour l'année prochaine, là, parce qu'il y a eu. C'était un gros défi. Ouais. Soyons francs, là, de faire ça décentralisé, essayer de donner un spectacle avec les webcams, avec les, toutes les équipes d'un quartier généraux. Il y a des DG qui ont adoré ça. Il y en a d'autres qui ont dit, j'ai entendu Ken Allen dire que lui, il s'ennuyait de parler de face à face avec tout le monde. Je pense pour les espoirs aussi. Il y en avait des espoirs, mais il y en avait moins qu'à l'habitude.
Puis même pour même pour les médias, même si je sais que les gens accordent très peu d'importance à notre réalité, là, mais tu sais, même pour les médias, de pouvoir avoir accès aux directeurs généraux, aux recruteurs, juste de l'autre côté de la clôture, c'est une partie du travail qui était vraiment appréciée parce que, bon, une équipe procède à une transaction, tu t'en vas jaser avec le directeur général ou avec le recruteur québécois qui vient de repêcher un espoir de la GMQ, par exemple. Fait que, c'est tout ça, on l'a perdu. Donc, on était comme prisonniers de notre estrade en haut, puis on attendait que les espoirs soient repêchés. Puis, tu sais, ce matin, ça n'a pas été long qu'on s'est mis à piger des espoirs qui n'étaient même pas sur place. Fait que c'est une drôle d'ambiance parce que il y a des applaudissements et tout ça, mais la personne concernée n'est pas sur place. Fait que ça a vraiment mis une drôle d'ambiance, puis disons que au niveau du déroulement et tout ça, ça a été plus long qu'à l'habitude. Puis je pense que ce qui ajoute à tout ça, c'est que l'an dernier, c'était probablement le repêchage le plus spectaculaire de l'histoire de la Ligue.
Ouais, ça avait été un coup de circuit.
Disons que la pente a été assez abrupte entre les deux repêchages.
Je pense qu'il va y avoir des bonnes discussions là, durant les prochaines semaines.
Mais ce qu'il faut rappeler aussi, comme Gary Bettman le disait, c'est que la Ligue nationale a suivi la volonté des 32 équipes. Il y a eu un vote et à 26 contre 6, ils ont voté pour une formule décentralisée. Donc, chaque équipe était dans sa propre ville. Ça donne ce que ça donne. Je crois honnêtement que ce sera peut-être un repêchage historique dans le sens où ce sera une fois et on devrait revenir à la vieille formule. Tu sais, Guillaume parlait pour les journalistes, une réalité différente. Juste donner l'exemple de la transaction Noah Dobson. Mathieu Darche venait de réaliser sa première transaction dans un rôle de DG. T'as pas l'occasion de lui parler en personne. Kent Hughes et Jeff Gorton venaient de procéder aussi à une transaction majeure chez le Canadien. Donc, tu dois attendre plusieurs heures à la fin du repêchage pour obtenir les premières réactions des DG. C'était différent. Il y a eu de beaux moments, par contre, là. Ça commençait fort. Avec Matthew Schaefer, coup de chapeau aux Islanders qui ont l'intelligence, la bonne idée d'ajouter un écusson pour le cancer sur le gilet des Islanders. Schaefer a rapidement remarqué la présence de l'écusson, l'embrassé, pointait vers le ciel pour saluer sa maman Jennifer qui a été emportée par un cancer il y a environ 2 ans. Donc, Il y avait beaucoup d'émotions dès le départ, mais ensuite, toutes les petites entrevues avec les joueurs, les DG, dans l'espèce de petite salle, on a eu beaucoup de moments où ils disaient qu'ils étaient « grateful » et très heureux. Puis on peut comprendre, il faut se placer dans les culottes de jeunes hommes de 17-18 ans. Ils ont la nervosité, ils viennent de vivre un très grand moment de leur vie. Tu leur demandes de faire une entrevue en direct avec des DG.
Ouais, avec des DG qui sont, tu sais, je veux dire, il y en a qui ont du charisme, mais il y en a d'autres qui c'est un peu plus difficile, tu sais, au micro. Je pense pas que c'est qu'il y en a qui étaient très à l'aise non plus d'engager une conversation, tu sais, devant une salle complète. Ça faisait un petit peu, bizarre.
J'ai l'impression que si à l'époque du vote, on avait dit au DG qu'il allait devoir parler devant la caméra de la sorte, soudainement les votes auraient changé. Donc,
ça se peut. C'était peut-être une petite manigance pour s'assurer que ce soit la seule fois que ça se voit comme ça.
Il y en a qui ont fait ça. Ben écoutez, on verra bien pour les prochaines années. De toute façon, au final, c'est pas ça qui retient l'attention, c'est ce qui s'est déroulé durant le repêchage, ou même avant le repêchage. JF, t'en as glissé un mot, la transaction Noah Dobson. On va parler de tout ça aujourd'hui au balado. On va aussi parler de ce qui se passe, qui s'en vient le 1er juillet, joueurs autonomes, l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Donc, les prochains jours vont être très occupés. Donc, tout ça, ben, si vous voulez nous suivre, écoutez, suivez-nous. Peu importe où vous écoutez vos balados, on est disponible à peu près partout. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Puis suivez-nous, abonnez-vous, comme ça vous êtes certain de ne pas manquer nos prochains balados, parce qu'on va en avoir un après le marché des joueurs autonomes, qui va être notre dernier de l'année, à moins qu'il se passe quelque chose de majeur, mais sinon qui va être notre dernier de la saison avant une belle pause pour l'été. Messieurs, on se lance avant, quelques heures avant le début du repêchage. Les Canadiens ont décidé de voler le spectacle. Toute une transaction avec les Islanders de New York. Ça se tramait un petit peu, on entendait entre les branches que Noah Dobson, ça tirait à sa fin pour le défenseur du côté des Islanders. Il était joueur autonome avec compensation, voulait un gros montant, le plafond est en hausse. Ça plaçait Mathieu Darche dans une situation pas facile. Et avez-vous l'impression que les Canadiens sont arrivés au bon moment dans cette discussion-là pour trouver un DG qui veut faire toutes les bonnes choses, mais qui se retrouve tellement dans... Écoute, il y a tellement de dossiers avec les Islanders à la suite du départ de Lou Lamoriello. Vous avez vu ça comment, cette transaction-là?
Ben écoute, à partir du moment où Noah Dobson manifeste son désir de ne pas vouloir prolonger à long terme avec les Islanders de New York, ça place Mathieu Darche dans une situation où il doit essayer de maximiser le retour pour Noah Dobson.
Juste préciser, Dobson, en tout cas, je ne sais pas ce qui s'est dit ailleurs, mais Dobson a dit que l'objectif à long terme était quand même de s'entendre avec les Islanders, puis que ça a été comme une décision mutuelle de voir que les chiffres peut-être fonctionnaient pas. C'est ça. Fait que je pense pas qu'il a exprimé le désir de quitter, là, mais disons qu'il a peut-être mis la barre un petit peu plus haute au niveau salarial.
C'était mutuel, disons.
Ouais, c'est
donc,
ça.
Donc, il a peut-être accepté un petit peu moins d'argent avec le CH versus ses demandes salariales avec les Islanders, mais peu importe. Darche devait peut-être aussi cibler des joueurs qui lui permettaient de rebâtir, entre parenthèses, les Islanders sans annoncer publiquement une reconstruction. Puis pour Kent Hughes et Jeff Gorton, le prix à payer, 16e, 17e choix, Emil Heinemann. Honnêtement, on peut parler probablement d'un bon coup. Dobson, c'est un défenseur de 25 ans, droitier. À première vue, on se disait, le CH va se lancer à la recherche d'un joueur de centre, un deuxième centre. Mais l'autre faiblesse, l'autre gros trou, c'est un défenseur droitier. Puis là, tu ne viens pas juste de remplir un trou, tu vas chercher un défenseur qui peut évoluer au sein de ton premier duo. Dobson, c'est un gars de 23-24 minutes qui a déjà eu 70 points il y a 2 ans. L'an dernier, une production offensive à la baisse.
C'est ça, sa production d'il y a 2 ans lui aurait donné le salaire qu'il a probablement, là, c'est ça.
Mais finalement, c'est un contrat de 8 ans et 9,5 millions. Donc, dans le marché des défenseurs numéro 1 ou 2, 9 millions, 9,5, ça reste un contrat assez raisonnable. Puis Dobson, si jamais se replace et revient le Noah Dobson d'il y a 2 ans, risque d'être un candidat aussi pour l'équipe olympique canadienne. Là, on parle d'un des bons défenseurs au pays. Donc, cette transaction-là a le potentiel de venir changer l'image du CH à court terme.
Est-ce que vous êtes surpris par le prix que ça a coûté quand même? Parce que certains parlaient de Juraj Slafkovský, d'un espoir de premier plan. Non, mais
ça, c'est Hugues au pupitre chez nous qui parlait de Juraj.
Ça veut dire
que
c'est Philippe pour le stouler.
C'est des gens émotifs qui sont prêts à faire beaucoup. Tu sais, je veux dire, donner Slafkovský pour avoir Dobson au final, tu sais, je pense pas que pour le Canadien, ça aurait été payant, tu sais, de sacrifier un gros morceau du top 6 alors que. C'est une des faiblesses en ce moment.
Puis t'ébranles ton noyau aussi. Tu sais, le noyau que tu bâtis depuis 3 ans, tu viens de l'ébranler en amenant un joueur d'extérieur et en faisant sortir un élément super important et un premier choix au pêchage. Parce que premier choix au pêchage, t'échanges pas ça à moins de cause majeure ou vraiment de grosses problématiques. Ça se fait pas. Normalement, c'est un gars sur qui tu vas bâtir ton équipe. Même quand les résultats sont pas toujours là, tu sais, on voit Alexis Lafrenière chez les Rangers. C'est Chris Kreider qui a fait ses bagages dans les derniers jours. Là. C'est pas Lafrenière. Donc, dans une situation comme ça, c'était sûr que c'était un package de premier choix de peu importe. Les Canadiens avaient ça.
Ouais, puis, tu sais, si tu regardes du côté des Islanders, c'est une équipe qui était très, très vieillissante. Tu as parlé de reconstruction, on ne l'a pas annoncé comme tel, mais disons que ça ressemble quand même à ça. Puis, tu as l'occasion de mettre la main sur 2 choix de première ronde consécutifs, en plus du premier au total qui était Matthew Schaefer. T'sais, les Islanders sont allés chercher que Sean Aitchison et Victor Ekloun avec ces deux choix-là. Donc, peut-être que dans 5-6 ans, on dira « Oh, OK, ça a coûté cher, Noah Dobson », mais ce sont deux équipes qui sont à des stades différents de leur cycle. Les Canadiens ne pouvaient pas se permettre. T'sais, moi, je regardais ça et je me disais « Le joueur que tu vas repêcher au 16e échelon en 2025, à quel moment est-ce qu'il va rentrer dans ta formation et à quel moment il va avoir un impact dans ta formation? » Le Canadien, je pense qu'on regarde dans un horizon de... 3-4 ans, tu sais, de parler d'une équipe qui va être capable d'aller de pousser jusqu'en finale, puis peut-être même jusqu'à la Coupe cette année. Donc, est-ce qu'un choix de 16e au total en 2025 aurait aidé cette équipe-là dans 3 ou 4 ans? Je pense que la réponse est non. Ça fait du sens pour les deux équipes. C'est une bonne transaction. Puis j'ai quand même été surpris, tu sais. Je m'attendais à ce que le Canadien doive sacrifier peut-être un Logan Mailloux dans cette transaction-là ou un espoir qui n'est pas encore établi dans la Ligue nationale, mais qui est prometteur quand même. Puis on n'a même pas eu à toucher à ça. Donc, je pense que pour le Canadien, c'est parfait parce qu'on garde ces atouts-là dans notre manche. Puis je pense que le magasinage n'est peut-être pas terminé. On avait identifié le top 6 comme une lacune. Donc, si on a encore ces atouts-là, un Logan Mailloux, un Ryan Backer peut-être, dans une transaction plus importante pour un attaquant de pointe, ben, on n'a pas touché à ça, on l'a encore sous la main, donc c'est un bon coup pour les deux équipes.
Guillaume parle de bon coup, puis Mathieu Darche a été quand même très transparent dans sa visioconférence avec les collègues de Long Island en disant qu'avec les choix 16 et 17, il a tenté aussi de frapper un circuit, de se rapprocher dans l'espoir de repêcher James Higgins, un centre américain qui est originaire de Long Island, donc on aurait pu ajouter un produit local avec les Islanders. Darche n'a pas réussi. Probablement que le prix à payer était trop élevé à ses yeux. Mais malgré tout...
Moi, je me suis demandé honnêtement si l'équipe visée n'était pas Philadelphie. Mais le fait que Porter Martin était disponible...
Oui, les Flyers voulaient un gros allié.
C'est ça. En raison du fait que Brady Martin est rentré dans le top 5, soudainement, j'ai l'impression que c'est peut-être là que ça l'a chopé, ce qui a fait que Higgins, parce qu'Higgins est sorti 7e, là, donc le choisir 6e n'aurait pas été une problématique là, pour Los Angeles, Long Island au contraire.
Non, mais Higgins aurait représenté la belle histoire pour les Islanders avec le joueur qui a grandi à quelques kilomètres de l'amphithéâtre. Mais quand tu termines le premier tour, puis les Islanders, là, Mathieu Darche hérite d'une équipe où il y a très peu d'espoir. À part peut-être Cole Eisenman, qui est un choix de premier tour l'an dernier, les Islanders ne regorgent pas de gros espoirs. Puis il termine sa journée du vendredi. Il ajoute Matthew Schaefer, qui est le premier choix au total, un défenseur qui va jouer plusieurs années. Victor Ekloun, c'est quand même un gars qui était un possible top 10 à ce repêchage-là. Il a glissé un petit peu. Puis Kachan, Nick, t'avais écrit sur lui lors du combine à Buffalo. C'est un défenseur c'est un défenseur qu'on dit très robuste, etc. Mm-hmm. Donc, ça vient donner un peu de lustre à une banque d'espoir qui était très, très, très mince. Puis si tu regardes le Lightning aussi, les gros noms du Lightning, la plupart, c'est des choix au repêchage. Donc, Darche est très conscient que tu bâtis une équipe par la bonne vieille stratégie du repêchage.
Du côté de Dobson, bon, vous vous attendez à quoi? On a parlé à quoi de lui, bon, pour l'an prochain, comment il va s'intégrer à l'équipe? C'est un nouvel environnement. Bon, mais on ne devrait pas le voir sur le premier avantage numérique. Je pense que Lane Hudson a gagné ce poste-là l'année dernière. De toute façon, Dobson veut prouver qu'il est capable de jouer des deux côtés de la patinoire. Sentez-vous que ça va être un environnement peut-être plus gagnant pour lui, que ses minutes, ses grosses minutes, soient pas sur l'avantage numérique, ironiquement, ou du moins sur la deuxième vague?
Ouais, mais tu sais, je pense on ne sait pas encore ce que Martin Saint-Louis va décider de faire. Ça donne des options. Si tu veux aller avec une première vague, avec deux défenseurs, garder un peu de puissance offensive chez les attaquants pour ta deuxième vague, ben ça ouvre la porte de ce côté-là. Côté défensif, je pense que Noah Dobson a toujours été assez efficace. On s'entend que la dernière saison n'a pas été la plus facile, mais tu regardes collectivement chez les Islanders. Je pense que c'est un constat qui peut s'appliquer pas mal à tous les joueurs de cette équipe-là. La production offensive a beaucoup chuté de son côté, mais il disait on était une équipe qui avait beaucoup, beaucoup de difficultés à marquer des buts. Donc, c'est certain que ça se reflète sur la fiche des joueurs de l'équipe. On a aussi il y a eu quelques échos là, comme quoi la relation avec Patrick Roy était peut-être pas au beau fixe. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que ça explique peut-être justement cette régression-là dans ses performances. Mais avec le Canadien, dans un environnement comme ça, j'ai parlé avec Mario Pouliot, son ancien entraîneur qui a gagné deux fois avec lui dans la LHMQ puis à la Coupe Memorial. Il dit, c'est un gars qui adore la pression, qui joue mieux sous la pression. Donc, est-ce que de se retrouver dans un environnement comme celui de Montréal, puis de se retrouver devant les partisans, tu sais, c'est un natif de l'île du Prince-Édouard, il est au courant de la passion des amateurs. Et hier, il disait en conférence de presse, en visioconférence, que les matchs à Montréal, c'était toujours ses favoris, puis qu'il a hâte d'enfiler le bon chandail sur la glace du Centre Bell. Je pense que ça peut quand même faire beaucoup, tu sais, on parle des intangibles là, autour de tout ça. Je pense que ça peut beaucoup l'aider à replacer sa carrière sur les rails là, après une saison en deçà des attentes peut-être. Mais je m'attends, tu sais, moi j'ai toujours été un fan de Noah Dobson depuis ses années dans le junior. Je l'ai couvert à son année de repêchage, puis c'est quelqu'un que j'ai toujours eu en haute estime. Donc pour moi, c'est pas vraiment une inquiétude cette saison-là. Puis le nouveau départ qu'il va obtenir à Montréal, j'ai confiance qu'il va être en mesure de s'en servir pour rebondir et peut-être redevenir un défenseur de 50-60 points. Puis il faut aussi souligner qu'il joue quand même en moyenne 23 minutes. Là. C'est un gars qu'on confiait des bonnes missions défensives. Ça va être ça son rôle avec les Canadiens. Donc je suis très optimiste par rapport à la prochaine saison.
Tu disais tantôt, tu parlais de... Où l'UCH va en être s'il repêche deux joueurs cette année, c'est un peu la même chose avec les Islanders. Où les Islanders vont-ils être dans les meilleures années du contrat de Dobson dans les quatre prochaines? Ça va être le fond du classement. Écoute, je ne le souhaite pas, là, mais bon, soyons francs, là, c'est une demi-reconstruction que Mathieu Darche amorce. Donc, ça explique aussi la décision. Mais là, vous voyez quoi pour la défensive du tricolore avec l'acquisition de Dobson? On manœuvre comment à travers ça avec les éléments qu'on a?
Ben écoute, Dobson, techniquement, peut facilement être le défenseur à droite de Caden Goulet. Ou, si tu veux faire un duo, Lane Hudson, Noah Dobson, mais je crois plus à un duo Caden Goulet, Noah Dobson. C'est un défenseur aussi qui va jouer en supériorité numérique. Pas nécessairement sur la première vague, puisque Lane Hudson devrait y rester. Mais, bon, peut t'amène assurément une arme de plus pour la deuxième unité. Avec la Lander, je jouais peu en infériorité numérique. Mais peu importe, c'est un défenseur facilement de top 4 à qui tu donnes 23, 24, 25 minutes. Et ce qui est intéressant pour Martin Saint-Louis, mais ça permet de réduire pour la saison prochaine probablement le temps de jeu de Michael Matheson. Il y a des matchs où Matheson oppressait beaucoup le citron à 27, 28, 29 minutes. Tu vas pouvoir le redescendre un petit peu. puis Guillaume de son entrevue aussi avec Mario Pouliot. Dobson, c'est un gars qui a gagné deux fois dans la JMQ avec Acadie Batters, puis avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Puis si Pouliot disait que justement, c'est un joueur qui est intelligent, qui patine bien, qui va bien cadrer dans la philosophie de Martin Saint-Louis. Donc, c'est, pour moi, c'est une acquisition plus qu'intéressante, celle de Noah Dobson.
À long terme, ça signifie quoi, par exemple, pour la brigade pour Mike Matheson?
Ben, je pense pas que ça signifie non plus le départ assurément de Mike Matheson. Ça va dépendre des exigences salariales de Mike Matheson. Il y a une pointe de tarte qui n'est pas à l'infini non plus. Lane Hudson, si Noah Dobson gagne 9,5, Lane Hudson, pour son prochain contrat, devrait logiquement s'approcher du 10, peut-être même 10,5, dépendamment du nombre d'années qui sera attaché à son prochain contrat. Mais Matheson, s'il choisit de rester à Montréal, c'est un gars qui se plaît énormément dans l'environnement montréalais. Et s'il opte pour un contrat de peut-être 2, 3, 4 saisons à un salaire avoisinant les 5, 5,5 millions, bien, il risque d'avoir encore de l'espace pour Mike Matheson. Tu as besoin de plus que 3, 4 bons défenseurs pour gagner dans cette ligue-là.
Oui, puis au-delà du rendement sur la glace, il ne faut pas oublier que cette équipe-là a déjà perdu. Influence. C'est ça, déjà perdu David Savard. Donc, si tu perds Savard et Matheson, ben, tu te retrouves avec une équipe qui est très, très jeune. Là, les vétérans, ça va devenir Gallagher, Josh Anderson, puis ça va pas mal être ça. Là, si j'étais le Canadien, je trouverais un moyen quand même de le garder pour un, deux, trois années, parce que bon, je dirais peut-être plus deux, là, puis après ça, on réévaluera, là, mais... je pense que le Canadien ne peut pas se permettre de perdre des leaders d'importance, des leaders de la trempe de Savard et Matheson dans le même été.
Quel point cette acquisition-là de Dobson change votre prédiction, votre analyse d'où les Canadiens vont finir l'an prochain? Il manque, on est encore loin, là, la période des joueurs autonomes, tout ça, il peut se passer gros des choses cet été, mais est-ce que ça fait... des Canadiens qui ont fait les séries à la surprise générale l'année dernière, est-ce que ça les place là, maintenant en territoire des séries sur une base régulière?
Ben, pour moi, je pense que ça va vraiment dépendre de ce qu'on va faire pour combler les trous sur le deuxième trio, parce que ça reste quand même un gros point d'interrogation. Tu regardes une équipe, je dis pas que le Canadien est rendu au stade où les Panthers en sont, mais les Panthers, c'était une équipe qui avait de la profondeur à c'est une équipe modèle. On est quand même loin de ça au niveau de la profondeur à l'attaque. Fait que pour moi, je vais attendre. Le travail fait juste commencer. Là. Je ne pense pas qu'on veut commencer à se projeter pour la prochaine saison, mais ça va vraiment dépendre du travail qui va être effectué à l'attaque. Parce que pour moi, la défensive comme elle est là, avec un Ryan Backer peut-être qui va cogner à la porte l'an prochain, avec... Si Mailloux est encore avec l'équipe au début de la prochaine saison, mais ça reste une autre option. Je pense que c'est une défensive qui est très, très intéressante. Reste à voir ce que Kent Hughes a dans les cartons là, pour l'attaque.
Ben, l'ajout de Dobson, Nick, donne un gros coup de pouce à cette équipe-là parce que froidement, en termes d'effectifs, c'est Dobson pour Emil Heinemann. Donc, Emil Heinemann, c'est un joueur qui a connu du succès au sein à l'aile d'un quatrième trio. Là, tu ajoutes un défenseur qui va venir patiner probablement au sein de ta première paire. Donc, oui, ça fait du Canadien une meilleure équipe. Est-ce que ça assure une participation aux séries? On verra. Il y a encore un paquet d'impondérables. Demidov va être là, mais Demidov va rester une recrue. Kirby Dach, est-ce qu'il va être rétabli de sa deuxième opération en peu de temps à un genou? Est-ce que Alex Newhook est un joueur de centre ou un calibre top 6? On peut avoir des réserves. Puis au sein du quatrième trio, maintenant, à part Jake Evans, c'est assez mince. Là. Tu peux peut-être te tourner vers des joueurs du Rocket de Laval, comme Florian Jacquet, le Jacquet, Owen Beck, Luke Tuck, mais ça reste de jeunes hockeyeurs qui n'ont pas encore montré qu'ils peuvent jouer sur une base régulière dans la Ligue nationale. Donc, pour répondre à cette question-là, je pense qu'il faut attendre au 1er juillet, voir ce que Kent Hughes et Jeff Gorton ont dans leur manche pour encore une fois améliorer l'équipe.
Bon, c'est dans une semaine, c'est un peu moins d'une semaine. Non, ça va venir vite. C'est le premier, c'est mardi.
3-4 jours.
Ouais, c'est ça. Ça va venir à la vitesse d'éclair. Quand vous allez avoir à peine le temps d'atterrir à Montréal que déjà, ça va être la fête du Canada 1er juillet. Messieurs, parlons du repêchage maintenant. On en a glissé un mot tantôt, JF, la sélection de Matthew Schaefer, qui, en quelque part, permet aux Islanders d'échanger Noah Dobson. Disons que quand tu vas chercher un joueur comme ça, tu sais qu'il va pouvoir faire le travail sur ta première paire de défenseurs. Schaefer, rapidement, Guillaume, le Schaefer, ses talents. Bon, rappelle-moi sa saison surtout, parce que c'était, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, tout ça, là, ça a été une saison vraiment semée d'embûche pour lui.
Ouais, ça a été une saison qui a été assez courte. Commencer ça avec une mononucléose. S'est rétabli quand même assez rapidement pour amorcer la saison, mais ensuite de ça, s'est présenté au championnat junior, s'est blessé au deuxième match, je crois, en entrant en collision avec le poteau, donc ça a mis fin à sa saison, il a dû être opéré et tout ça pour être en mesure de revenir, même s'il s'approchait d'un retour, là, je pense, en séries éliminatoires, mais tu sais, je pense que l'épreuve avait été faite. À ce moment-là, sa cote était quand même assez haute. Je me souviens au match des meilleurs espoirs, là, le duel entre les étoiles de la Ligue canadienne et le programme américain. Schaefer avait été tout simplement dominant dans ces deux matchs-là. C'était lui qui dictait l'allure de ces matchs-là. Donc, il y avait déjà beaucoup de gens qui l'aimaient. Ensuite de ça, au camp de sélection de Hockey Canada, il a vraiment été étincelant. J'aurais vraiment aimé le voir là, dans un contexte contre les meilleurs au monde, au championnat junior, dans des matchs très importants. Je pense que ça a été un dur coup qui a été porté à la formation canadienne au mois de décembre là, quand il s'est blessé. Mais sa saison, ça a été ça. Puis après ça, côté personnalité, c'est un gars qui m'a impressionné vraiment chaque fois que je l'ai eu en entrevue. Très, très solide, très mature. On s'entend qu'avec ce qu'il y a eu à vivre, là, le décès de sa mère de pension en l'espace de 3 mois, là, je veux dire, pour un kid de 16-17 ans, ça te fait vieillir assez rapidement. Donc, toute cette maturité-là combinée avec son talent sur la glace, je pense que ça faisait de lui un choix assez évident pour le premier au total. Puis, il y a la volonté de bien faire, de réussir. Puis je pense qu'il l'a dit à Mathieu Darche, là, il dit je vais vous donner raison, là, tu sais, je vous laisserai pas tomber. Puis je pense que c'est le genre de joueur que tu vas avoir dans ton équipe qui a le couteau entre les dents et qui va vraiment tout faire pour prouver qu'il a sa place parmi l'élite de la Ligue nationale.
Le fait que s'il peut jouer que ça, est-ce que tu penses que ça peut nuire à ses chances de commencer la prochaine saison, par contre, avec l'équipe?
Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Là. Il revient quand même d'une opération. Mm-hmm. Est-ce que tout est solide? Est-ce qu'il va jouer? Il va pouvoir jouer en confiance dès le début sans avoir peur de se faire mal? Et tout ça, c'est tout le temps des questions qui reviennent quand un joueur revient d'une longue blessure. Mais là, tu demandes à un jeune joueur de 17 ans qui n'a pas joué l'an dernier de faire le saut dans la Grande Ligue. Je pense que ça pourrait être beaucoup lui en demander. Mais ça reste à voir est-ce que rendu au début de la saison, les Islanders vont avoir beaucoup de place dans leur équipe, puis ils vont préférer l'avoir à Long Island, puis l'encadrer dans son développement. C'est une option, mais je le verrais quand même retourner junior là, pour une année complète, puis vraiment reprendre son développement ou le laisser là, au mois de décembre.
Deuxième rang, Michael Misa. C'est ça encore là à quoi on s'attendait. Misa, bon, va aller rejoindre Macklin Celebrini. On va avoir une belle ligne de centre. Hein, du côté des Sharks de San Jose, il reste énormément de pièces à mettre dans cette équipe-là, mais il reste qu'en attaque. Là. Macklin Celebrini, William McLean, Will Smith. Et là, on ajoute Michael Misa. Il y a une très, très bonne fondation du côté de San Jose en attaque. Rapidement, Misa, c'est vraiment ça. C'est le typique joueur d'attaque productif qui sera peut-être pas le meilleur des deux côtés de la patinoire, mais c'est pas grave, c'est pas ça que tu lui demandes.
Non, les Sharks apparemment jonglaient aussi entre Michael Misa et Anton Frondell.
Qui sont deux opposés.
Ouais, deux opposés, mais deux joueurs de centre. Missa, c'est un autre talent brut. On parle d'un gars qui a obtenu de très, très bons chiffres offensifs dans la Ligue junior de l'Ontario. C'est une équipe qui rebâtit quand même bien avec Macklin Celebrini comme pièce maîtresse, Will Smith, comme tu disais, Nick. Michael Missa, on l'a déjà dit, à ce balado était probablement trop bon pour gagner un poste avec l'équipe canadienne des moins de 20 ans. 134 points en 65 matchs, 65 buts, 62 buts en 65 matchs, c'est beaucoup, beaucoup de points. Puis c'en est un aussi dans la Ligue junior de l'Ontario qui a joué avec une bonne dose de pression. C'est jamais facile non plus quand tu obtiens la fameuse étiquette de joueur d'exception. Ouais. Il a fait ses débuts, il était à Saginaw, si ma mémoire, avec le Spirit de Saginaw à l'âge de 15 ans. Donc, il a déjà trois saisons dans le corps de la Ligue junior de l'Ontario. Les Sharks, Mike Greer avait un grand sourire quand il parlait de Michael Missa.
Justement, là, tu parles, il y a de l'expérience, ça fait trois ans dans la OHL. Schaefer est peut-être entre la Ligue nationale et les juniors. Avez-vous eu des discussions là-bas avec la réalité de la NCAA pour ces joueurs-là, puis ces joueurs-là qui sont choisis aussi haut? Est-ce qu'on y pense de plus en plus? C'est quoi la teneur des discussions que vous avez eues sur la nouvelle réalité? Bon, on va y revenir, je pense, plus tard dans le balado, là, mais peu importe, mais cette nouvelle réalité-là.
Il y a plusieurs joueurs, Nick, qui se font tirer l'oreille. À commencer par des joueurs du Québec. Là, Justin Carbonneau pourrait partir du côté de Boston College. Caleb Desnoyers, même si on lui confie le rôle de capitaine la saison prochaine avec les Wildcats de Moncton, Caleb aussi se fait courtiser du côté de la NCAA. Plusieurs joueurs. Ça crée un mouvement qui va être difficile à freiner. Juste Justin Carbonneau parlait la différence des installations entre Boston College puis l'Armada de Blainville-Boisbriand. C'est rien contre l'Armada, c'est un autre monde. C'est un programme avec énormément de budget et d'argent du côté de Boston College. Donc, ça peut être difficile pour les équipes canadiennes de rivaliser.
Tu sais, juste mettre ça en contexte pour les gens qui n'ont peut-être pas l'occasion de voir ces installations-là puis qui ne sont pas vraiment au courant. Là, les équipes de la NCAA, c'est des installations qui sont supérieures à la grande majorité de celles des équipes de la Ligue américaine. Là. C'est mm-hmm. même pas proche. Là. C'est des vestiaires ultra luxueux. C'est des espaces communs là, à la hauteur de celles qu'on peut retrouver peut-être au Centre Bell. J'ai visité Boston College cette année. J'ai visité Michigan. C'est des gros programmes. Donc, tu sais, pour un jeune Québécois, de te faire offrir la chance d'aller là puis de vivre, tu sais, ne serait-ce, oui, le développement, là, mais tu sais, l'expérience de vie, d'aller étudier dans une université américaine de grand calibre.
Entre guillemets, là, étudier, on s'entend?
Ouais.
Oui, mais c'est le ménique.
Non, mais je veux dire, tu sais, Carbonneau, par exemple, s'il s'en va là, il s'en va là pour une année. Moi, mon cégep, je l'ai fait en trois ans, je suis un peu différent vu que c'était une technique de sciences humaines. C'était difficile. Mais pour la plupart des gens, c'est même pas un cégep, c'est même pas un DEC en sciences humaines. Non. Fait que là,
mais
lui, il est parti un an. Là.
Techniquement, tu as toujours le loisir d'y retourner quelques années plus tard, mm-hmm.
oui.
de terminer des études aussi à distance.
Alex Chiasson l'a fait, effectivement.
Ouais, exact.
AJ Greer l'a fait.
AJ Greer l'a fait aussi. Jonathan Kovacevic. Donc, il y en a plusieurs exemples. Ça reste que c'est attrayant. Là. Si tu as l'occasion de sortir avec un diplôme d'une université américaine, y en a qui vont aller à Harvard, il y en a qui vont aller dans de bonnes écoles aussi. Donc c'est...
Puis vivre l'ambiance dans ces arénas-là, ouais. c'est complètement une autre vie que celle de la GMQ. Puis j'enlève rien à la GMQ, mais ce sont deux produits tout à fait différents. Puis... c'est sûr que c'est difficile de rivaliser, puis c'est attrayant pour ces jeunes-là. Puis, on a parlé avec Mario Cecchini à la fin de ce repêchage-là, puis on cherche des moyens de séduire les jeunes, puis de les garder dans la GMQ. Avec les résultats qu'on a, bon, on a produit 19 choix dans ce repêchage-là. OK, mais tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de travail puis d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Donc, ça, ça commence à être difficile un peu pour la LCH de rivaliser avec les offres qu'on a du côté des espoirs de premier plan.
Le travail va devoir se faire en amont pour attirer les meilleurs joueurs américains au Canada quand ils ont 15 ans, 16 ans ou peu importe. Là. Fait qu'il faudra voir ce serait quoi la stratégie. Est-ce que on va peut-être, en tout cas, on verra, là, mais davantage de place aux joueurs de 16 ans si on peut aller les chercher. Puis là, c'est pas là que la LHJMQ va être avantagée parce qu'on n'a pas un grand territoire américain, parce que ça parle français aussi ici. Donc, en tout cas, ça, c'est un autre débat. Frandel, on en a glissé un mot. Bon, lui va aller appuyer Connor Bedard du côté de Chicago, joueur super responsable sur 200 pieds. Un bon joueur de hockey suédois. Là.
La comparaison qui revenait, là, qui est peut-être dans le meilleur des mondes, un Alexander Barkov. Barkov qui est finlandais, par contre, là, mais ce serait l'ultime comparaison pour Frandel.
Exactement. Et là, on arrive au quatrième rang et on a droit à on peut dire surprise quand on regarde le rang qu'il était classé au niveau de du bureau central de dépistage, au niveau de la majorité des listes, au niveau de ce qu'il a fait cette saison où il a été ennuyé par une blessure. Caleb Desnoyers qui devient le premier choix de repêchage du Mammouth de l'Utah. Et pas juste du club de hockey de l'Utah, mais du Mammouth. Alors, repêché au quatrième rang, belle sélection dans le cas de Caleb. Et semble-t-il, il avait senti que ça cliquait avec le Mammouth quand il était à Buffalo là, lors des entrevues.
Oui, puis non seulement à Buffalo, on n'a pas eu beaucoup de détails, mais Caleb a dit qu'il était allé à Salt Lake City récemment pour des raisons personnelles.
Ouais. Personnelles.
Si j'avais à mettre mon deux cents là-dessus, je crois que peut-être qu'on est allé là pour des tests médicaux là, par rapport à la blessure qui l'ennuyait tout au long de la saison. Mais ça, c'est des spéculations. Là, on n'a aucune confirmation là-dessus, mais il est allé à Salt Lake City.
Est-ce que c'est Caleb qui s'est échappé un peu ou ce sujet?
Non, il n'a vraiment pas voulu ouvrir la porte à ça. Il a parlé de raisons personnelles, mais tu sais, je veux dire, c'est pas des raisons personnelles. Il n'y a pas beaucoup de jeunes Québécois qui vont en voyage à Salt Lake City. Je sais pas.
L'Utah n'est pas. Ouais, c'est ça. Salt Lake City n'est pas exactement Trois-Rivières. Là, fait que,
non, puis pendant qu'il était là-bas, ben, il a eu l'occasion de partager un repas avec l'état-major de l'équipe. Donc, il y avait beaucoup d'atomes crochus, je pense. Puis Bill Armstrong, le directeur général, avait été là, avait fait quelques voyages là, pendant les séries de la LHJMQ pour le voir en personne. Pendant la Coupe Memorial, il était aussi là avec le personnel du Mammouth sur place. Donc, on l'aimait beaucoup, Caleb. Puis malgré tout ce qu'on a dit sur les petites entrevues là, après les sélections avec les directeurs généraux, Bill Armstrong a quand même dit à ce moment-là, on l'a vu mettre son équipe sur ses épaules à seulement 17 ans. Mm-hmm. Ça, c'est impressionnant. C'est difficile à faire et tout ça. Donc, on sent que la conquête du trophée Gilles Courteau des Wildcats puis la performance de Caleb qui a quand même obtenu le trophée du joueur le plus utile pendant ces séries-là. Je pense que ça a fait pencher la balance encore plus de son côté. Puis, je veux dire, quand une équipe aime un joueur pour ce qu'il offre sur la glace, puis après ça, la chance de le rencontrer, de rencontrer sa famille. T'sais, Caleb est quand même quelqu'un d'impressionnant. Là. On l'a rencontré à quelques reprises cette année, les trois. Puis
deux fois au balado, c'est ça.
C'est ça, c'est un jeune qui est mature.
Nos auditeurs l'ont même rencontré.
C'est un jeune qui est mature, qui est sympathique, qui est très, très respectueux. Donc, je pense qu'il offrait un package très, très intéressant pour une équipe. Puis ça a été l'Utah qui a décidé d'y aller avec lui. Puis je pense qu'ils ne regretteront pas leur choix là, d'ici quelques années.
Pour la petite histoire aussi du repêchage, Caleb a eu le bonheur d'entendre son nom être prononcé par Tony Finau, joueur de la PGA. C'était difficile de comprendre le nom de famille. Puis Tony aussi m'ont appris à quoi ressemblait le cri d'un mammouth dans les moments forts de ce repêchage. Il y avait Tony qui imitait le cri d'un mammouth. Et Caleb qui a, vous le savez les gars, il y a un sens de la répartie. Caleb disait que c'était la deuxième fois qu'à un repêchage, on charcute un petit peu son nom. Ceux qui ont le temps, vous irez voir sur YouTube quand les Wildcats de Moncton le repêchent au tout premier rang.
Monsieur Irving, le propriétaire, on regardait ça parce qu'on a eu quelques minutes de temps libre là, dans les derniers jours. On a regardé ça à quelques occasions. Puis c'est les Gaulois de Saint-Hyacinthe ont aussi été massacrés. Puis Caleb Desnois, je crois que ça a été ça, le Desnois.
Desnois.
Pour Monsieur Irving, par contre, Saint-Hyacinthe, c'est vrai que ça reste un défi de prononciation. Comme Blainville-Boisbriand aussi, à ce repêchage, quand Justin Carbonneau...
Ouais, ça a été un défi aussi. Même Mathéo...
le 19e choix des Blues de Saint-Louis. C'était quoi? C'était Nikki Glaser.
C'était Nikki Glaser. Hey, là, je suis frustré parce que tu me voles
C'était pour faire le lien. Là. Oui, on sautait d'un Québécois à l'autre.
Tu me voles ma transition. Effectivement, Nikki Glaser qui a procédé au choix de Justin Carbonneau. Justin Carbonneau, elle l'a bien eu.
Oui, 10 sur 10 pour Justin Carbonneau.
Blainville-Boisbriand, ça a été plus difficile pour Nikki Glaser. La bonne nouvelle pour Carbonneau, c'est qu'il ne s'est pas fait roaster comme Nikki Glaser a roasté, entre autres Tom Brady. Honnêtement, allez voir Nikki Glaser en matière de roast, c'est la meilleure. Elle est incroyable. C'est un poison, cette fille-là, dans un roast. Son delivery, sa livraison, elle est incroyable. Puis, elle a une autre chose, vraiment dans ses insultes, elle est précise, ça va vraiment au bon endroit, comme les lancers de Justin Carbonneau, qu'il est capable de prendre.
Carbonneau, ça avait été préparé, ça.
Ben non, c'est justement, j'essayais de trouver autre chose parce que l'autre m'a volé ma transition. Carbonneau, parlons-en, deuxième espoir repêché dans cette première ronde par. Deuxième espoir québécois, je veux dire, de repêcher dans cette première ronde. Il a été sélectionné, l'on le voyait, au 19e rang. Ce n'est que du positif pour Carbonneau qui s'amène dans une organisation où il va avoir un peu d'espace, je pense, pour un gars comme lui avant longtemps.
Oui, Carbonneau qui est 16e meilleur espoir en Amérique du Nord, si ma mémoire est bonne. Il y en a qui associaient son nom dans quelques repêchages simulés à celui des Canadiens de Montréal. Le CH en échangeant les choix 16-17, mais on oubliait ce scénario-là. Justin tombe avec les Blues de Saint-Louis. Il disait qu'il avait regardé la poussée des Blues l'an dernier pour atteindre les séries. Aime bien Jordan Kyrou comme joueur. Éventuellement, pour avoir le bonheur de jouer sous les ordres de Jim Montgomery. Et Justin Carbonneau, c'est un autre. On le sait, les gars, on l'a reçu au balado. C'est un autre qui a une personnalité attachante. Puis, une des premières choses qu'il a mentionné devant les médias, c'est dit « Je tiens à m'excuser ». Au début, je me disais « Pourquoi tu voudrais t'excuser ?» Il s'excusait pour son entrevue avec le collègue Renaud Lavoie de TVA Sport, où Justin parvenait tout simplement pas à contenir ses larmes. Là, c'est les émotions qui sortaient d'un coup sec. Mais bon, ça faisait de la bonne télé aussi. Ouais. Il n'y a rien de mal à sortir des émotions. Puis, Renaud aussi est une petite bébite tellement attachante. Je peux comprendre Justin de craquer.
Mais c'était quand même drôle parce que tu l'as rencontré, Guillaume, avec JF, toi aussi. Carbonneau, c'est un gars qui est extrêmement confiant dans sa manière de parler. C'est un gars, il dégage. Puis de le voir casser de même dans un moment où t'es pas en contrôle de ce qui se passe. Tu viens d'apprendre que t'es repêché, tu viens d'apprendre que c'est Saint-Louis, tu viens d'apprendre. Puis tous les efforts que t'as fait, je veux dire, c'était spécial. Connaissant son niveau de confiance puis d'assurance, de le voir casser de la sorte, puis de se remonter par après, puis c'est correct. Puis parce que c'est un gars qui a en plus qu'une bonne. Il a un bon sens d'humour, il a le sens du punch là, en plus, Carbonneau. Donc, c'était spécial. Donc, ça va être un choix intéressant dans le cas de Carbonneau qu'on va, suivre dans les prochaines années, mais qui, oui, j'espère qu'il va se rendre avec Jim Montgomery. Là. Il y a quelques Québécois, il y a Zachary Bolduc aussi du côté de Saint-Louis, là, donc
j'ai l'impression que Carbonneau cadre très, très bien dans le genre de joueur que Jim Montgomery aime. Là. C'est un gars qui a de la fougue, qui a de la vitesse, qui s'implique physiquement, qui a de la hargne aussi même. Donc, je serais pas surpris, je dis pas l'an prochain là, ou peut-être même dans 2-3 ans, là, mais si Jim Montgomery est encore à la barre des Blues, je pense qu'on va pouvoir lui faire une petite place dans cette formation-là.
C'est vrai qu'il faut dire ça maintenant. Si dans 2-3 ans, il est encore à la barre de... Hein, avec
au rythme où ça va, c'est rendu ça.
Et finalement, pour le Québec, ben, bonne récolte en première ronde avec trois joueurs. Le troisième, ben, il a été sélectionné par le nouveau directeur général des Penguins de Pittsburgh, Alex Letang, qui a fait tous les choix, le fils de Christopher qui a fait tous les choix des Penguins. Fait un beau travail, Alex, là-dessus, et qui a sélectionné, bon, c'est Carl Dubus là, au final, là, mais on s'entend, qui a sélectionné Bill Zonon au 22e choix. Et ça, c'était une belle surprise parce que Zonon était plus dans... fin première ronde, début deuxième ronde, mais encore une fois, les Pingouins font somme toute assez souvent confiance au Québec. C'est une des rares équipes qui a pas peur de piger au Québec. Puis on choisit un joueur Zonon qui a eu une belle progression cette année, qui a ajouté beaucoup de cordes à son axe, qu'on a peut-être besoin dans une équipe qui s'en va sur une reconstruction comme sont les Pingouins.
On avait rencontré Bill Zonon, Guillaume, c'était jeudi, donc la veille du premier tour. Puis à la fin d'une entrevue avec Bill, petite conversation avec Philippe Lecavalier, son agent. Les agents ont souvent une très, très bonne idée d'où peuvent sortir les joueurs. Puis Philippe Lecavalier avait identifié Bill comme 25 à 45 en disant peut-être début du deuxième tour également. Finalement, 22e choix. Mais il y a eu concours de circonstances aussi. Ouais. Les Penguins de Pittsburgh avaient les choix 11 et 12. Ils ont échangé le 12e choix pour descendre et obtenir un autre choix. Donc, parlait finalement au 22e rang. Puis Bill Zonon disait qu'au moment qu'il y a eu cette transaction-là, il a parlé à sa petite sœur pour lui dire ça pourrait être une bonne nouvelle. Il savait qu'il y avait des atomes crochus avec les Penguins de Pittsburgh. C'est une belle histoire aussi, celle de Bill Zonon. Là, on a écrit à son sujet. Papa, maman, originaire du Togo, les deux se sont rencontrés en étudiant à l'UQAM. La mère de Bill Zonon, Mathilde, disait que quand il avait 5 ans, il lui avait acheté un premier équipement de hockey. Puis en sortant du magasin, le jeune Bill avait dit que c'était le plus beau jour de sa vie. Il ne comprenait pas pourquoi c'était une si belle journée aux yeux des parents. Mais finalement, toute la famille est tombée en amour avec ce sport-là. Clin d'œil aussi à Piqué Souban, qui a eu une grande influence. Donc, Zonon,
sa sœur qui joue
à Stansted College, qui pourrait également, là, qui se fait courtiser par les gros programmes américains pour aller dans la NCAA. Donc, c'est une famille de hockey maintenant, puis Bill Zonon devient le 22e choix au total. C'est autant un centre qu'un ailier. Il avait un immense sourire devant les médias. Là, c'est encore hypothétique, mais il devrait techniquement participer à un camp d'entraînement avec Sidney Crosby. Donc, pour un jeune garçon de 18 ans, originaire de Montréal, avoir la chance de côtoyer Crosby, c'est un gros plus aussi.
Oui, et Zonon va peut-être va devoir quelques merci à son ancien entraîneur, Steve Hartley, chez les
Huskies.
Il a vraiment rajouté plusieurs défis au fil de la dernière année et demie, là, quand Hartley est arrivé à Rouyn-Noranda, pour lui permettre d'ajouter beaucoup de cordes à son axe, ce qui fait qu'il a grimpé de la sorte, mais 22e. Tu sais, même lui, là, il donnait ses entrevues, puis j'écoutais les entrevues avant le repêchage, puis il disait, écoute, je suis réaliste, là, ça se peut que je sorte deuxième. Si on lui avait dit 22e, là, pas deuxième, mais deuxième ronde, si on lui avait dit 22e, puis je pense que... il n'y avait pas beaucoup de fameuses listes, là, des listes qu'il voyait aussi haut que ça. Donc,
ouais, lui nous avait dit 20 et 40, puis qu'on a validé, c'est ça avec Philippe, il a dit 25 à 45. Ouais, donc, l'agent était plus sur ses gardes, là, mais quand même, il faut souligner aussi Luc Gauthier, qui est un recruteur d'expérience avec les Pingouins. C'est vraiment pas rare qu'on lui fait confiance du côté de Pittsburgh. Les Pingouins qui ont repigé dans la cour de la LGMQ au troisième tour avec le gardien Gabriel Daigle, là, on y reviendra peut-être, mais faut souligner...
Vas-y, puis après ça, on va faire les... On skippera plus tard, Gabriel, là, je l'avais
c'est au troisième tour quand même une surprise, une agréable surprise pour Gabriel Daigle, qui est un gardien qui est depuis... peut-être 2-3 ans, on parlait de lui là, vraiment comme le prochain joyau devant le filet, le prochain joyau québécois devant le filet. Les deux dernières saisons du côté de Victoriaville, ça n'a vraiment pas été facile. On parle de taux d'efficacité autour de 870, des moyennes de buts alloués qui surpassent les 3, même les 4 cette année. Dans une équipe, précisons-le, qui n'a pas participé aux séries éliminatoires là, dans la GMQ. Donc, les Tigres en arrachaient beaucoup cette saison. Ça doit pas être facile pour un gardien dans une situation comme celle-là, mais disons que l'étoile de d'aigle pâli au cours des dernières années, mais a quand même été le premier gardien de la LGMQ à être réclamé dans ce repêchage-là. Puis ça a été les Pingouins qui lui ont fait confiance. Il disait là, vraiment en entrevue, on l'a eu en visioconférence après, il disait « Je m'attendais à la cinquième ou la sixième ronde. » Il dit « Au troisième tour, je suis avec ma famille de pension, on se préparait à dîner, on jasait, la télé était ouverte, mais personne ne regardait vraiment attentivement. » Puis là, c'est là que son nom est apparu sur l'écran. Donc, ça a été un grand moment de joie. Il a même avoué que dans les dernières semaines, ça lui passait par l'esprit là, qu'il pourrait être complètement ignoré au repêchage. Donc, pour lui, c'est un grand soulagement, c'est une preuve de confiance. Tu sais, j'aurais aimé parler à Luc Gauthier, tu sais, quand on parlait du contexte. Là, ça aurait été intéressant de voir ce qu'il a vu en lui puis pourquoi est-ce qu'on a décidé de lui faire confiance du côté de Pittsburgh. Mais tout ça pour dire que l'organisation fait confiance à son recruteur d'expérience, au Québec, Luc Gauthier. Donc, faut lui lever notre chapeau pour cette autre belle récolte dans la LGMQ.
Et donc, saison extrêmement importante pour lui d'aigle l'année prochaine.
Mm-hmm.
Vraiment, là, se relancer, se remettre sur des bonnes rails. Il continue à Victoriaville, là, donc
ouais.
Pour la suite. Messieurs, on fera pas bon, on va pas parler de tous les choix de la première ronde. Les gens, vous nous écoutez, là, allez sur le site de lnh.com. Honnêtement, on a du stock et du stock et du stock, des textes et des textes de la part de vous deux, les collègues, mais aussi de tous nos correspondants journalistes de nhl.com aussi. Donc, on vous offre ça. Allez lire là-dessus. Maintenant, on va parler des choix des Canadiens. Bon, rien à faire en première ronde, mais semble-t-il que si on avait eu nos choix de première ronde, si on ne les avait pas échangés contre Noah Dobson, ben le joueur qu'on a repêché en deuxième ronde, on l'aurait pris avec le 16 ou le 17e choix. C'est Alexander Zarovski. Les gars, parlez-moi un peu. C'est, certaines équipes le voyaient quand même, certains dépisteurs le voyaient quand même assez haut, mais visiblement, de le voir tomber en deuxième ronde, ça devait être une belle surprise pour les Canadiens qui se sont avancés pour aller le chercher.
Oui, mais ça, c'est aussi un classique de chaque repêchage là, de dire que le joueur qu'on voulait, finalement, on était surpris de voir qu'il était encore disponible.
Comme chanter Jean Dupayis à la Saint-Jean ou du Rogoisin à la fin du Canada.
Il y a des choses qui reviennent d'année en année, mais une preuve, le CH aimait visiblement Alexander Zarovski. Ils ont échangé deux choix de deuxième tour, 41 et 49, pour s'approcher au 34e rang avec les Hurricanes de la Caroline. J'écoutais les propos de Nick Bobrov et de Martin Lapointe qui rencontraient les journalistes qui, eux, restaient du côté de Montréal. On l'écrit comme un attaquant dynamique, intelligent, un potentiel pour jouer au sein d'un top 6 du côté de l'aile. C'est un gaucher qui joue à l'aile droite. C'est aussi, par la bande, un ami, un ancien coéquipier de longue date d'Ivan Demidov. Donc, autant Bobrov que Lapointe étaient heureux de cette sélection de Alexander Zarovski. Bon, il disait que du côté de la liste du CH, il figurait plus vers 16e, 17e rang où justement Montréal parlait. Mais est-ce qu'il l'aurait vraiment repêché s'ils avaient gardé ces deux choix-là? Ça, on n'aura jamais la réelle réponse.
Dans les autres choix. Non, avant, on le décrit comme quoi? Comme joueur, on s'attend à quoi de lui?
Ben, c'est un attaquant offensif. Là, il a eu de bonnes statistiques, mais jouait quand même là, pour un circuit junior du côté de la Russie.
La MHL
on parlait de dynamique avec de la hargne, du chien, bon potentiel offensif. Donc, autant Bobrov et Lapointe ont lancé des fleurs à son sujet. Ensuite, là, il y a eu quand même deux gardiens ajoutés à la banque d'espoir, un gardien qui jouait du côté du Bélarus et l'autre dans la cour du Québec, Cap-Breton, Alexis Cournoyer. La belle histoire, celle d'Alexis Cournoyer. Une demi-saison, en réalité, dans la LHJMQ avec les Eagles du Cap-Breton, mais assez pour attirer l'attention du CH. Louis Robitaille m'en parlait aussi comme un jeune homme, là, hyper attachant, c'est quelqu'un avec une belle personnalité, là, donne des high-fives dans le vestiaire entre les périodes. C'est pas le type de gardien à rester dans son coin, dans sa bulle. Alexis Cournoyer aussi nous a fait rire là, parce que son père avait écrit sur les réseaux sociaux « Si jamais mon fils se fait repêcher aujourd'hui, je vais courir en bobette en sous-vêtements dans les rues de Trois-Rivières.
Il était même plus explicite que ça, le bon.
Oh, oui, avec des épingles à
couche. Des épingles au bout, puis tout ça.
Oh, oui, c'est ça. Ouais.
Ben, c'est Louis Cournoyer. Les gens de la Mauricie ou du centre du Québec le connaissent sûrement. C'est un animateur de radio de ce coin-là, à Énergie, si je ne me trompe pas. Mais c'est aussi l'animateur maison des matchs des Cataractes.
Mm-hmm.
C'est quelqu'un qui est connu dans la région, là, Louis Cournoyer. Donc, de le voir, de voir son fils, puis c'est une histoire, là. C'est un choix de 13e ronde dans la LHJMQ, là, Alexis Cournoyer, là, en matière.
Ouais, il a joué collégial, il a été joué dans les Maritimes, dans le Junior A à Truro.
À Truro, oui, exactement. Okay, je serais curieux de savoir si c'est le premier joueur de ligue collégiale qui a joué dans la ligue collégiale du Québec à être repêché, peut-être pas, je ne sais pas, mais il reste que c'est ce gars-là n'aurait jamais dû être repêché aujourd'hui, encore moins en cinquième ronde. Donc, de le voir, avoir réussi à connaître, à sortir de nulle part en fin de saison avec les Eagles du Cap-Breton. D'ailleurs, c'est quoi, pourquoi il s'est amené en milieu de saison? C'est qu'on avait besoin d'un gardien chez les
Eagles? Il y avait le gardien partant du côté des Eagles, qui est un choix l'an dernier des
prédateurs de Nashville.
Jacob Milota. Je parlais avec Louis Robitaille. Jacob Milota était du côté du Mondial Junior avec la Tchéquie. Donc, les Eagles se cherchaient un gardien. Alexis Cournoyer venait de gagner deux fois le titre de joueur du mois du côté du circuit Junior A dans les Maritimes. On lui a fait appel en disant, on ne te donne aucune promesse, mais on va probablement te donner deux ou trois départs. Ce sera à toi d'en profiter. Puis finalement, bien, il a terminé la saison du côté de Cap-Breton. Juste vous dire ses statistiques rapidement. 13-6-1, moyenne de 1,82, taux d'efficacité de 942. Donc, quand on dit saisir une chance, c'est exactement ce qu'il a fait. Puis, il n'y a pas juste le Canadien qui s'intéressait à Alexis Cournoyer. Il avait déjà en poche un billet d'avion pour partir en direction de Nashville. Il s'en allait au camp de développement des Prédateurs avec un simple carton d'invitation. Mais le CH a déjoué les plans en le repêchant au cinquième tour. Sinon, les autres joueurs, là, je ne pense pas qu'on va faire une longue liste. Là. Il y a le cousin de Logan Cooley. John Mooney, un colosse, 5 pieds 8, 160 livres, que Bobrov a toutefois décrit comme étant hyper talentueux, que c'est un potentiel circuit comme choix de quatrième tour. Sinon, il y a un ajout à Aiden Popanekis, gros centre de 6 pieds 5 pouces au troisième tour. Ajout de défenseur aussi avec Bryce Pickford, Carlos Sandell.
Pickford qu'on a vu à la Coupe Memorial, qui est plus vieux.
Ouais, avec Medicine Hat. Ouais, un joueur de 19 ans. Carlos Sandell également un défenseur. Andrew McNeil, un autre défenseur. Maxon Vig, un autre défenseur. Endel, c'est un Allemand qui a joué avec les Moussets de Halifax. Donc, grosso modo, voici le portrait pour les choix du CH en cette deuxième journée.
Les autres, on en reparlera dans 5 ans, s'il y a lieu. La Ligue de hockey junior majeur du Québec, Guillaume, un bilan pour le circuit. Ben écoute, on va le souligner. À toutes les années où on a pu être négatif sur le bilan de la LHJMQ, cette année, c'est une belle année. C'est quelque chose qu'on se réjouit là, du côté de Mario Cecchini, qui est le commissaire du circuit.
Ouais, 19 choix au total, 3 choix de première ronde. Je pense que c'est de ça dont il est le plus fier, là, parce qu'après deux années de suite où la GMQ produisait aucun choix de première ronde. Donc là, on revient en force avec Caleb Desnoyers, Justin Carbonneau, Belzonon. Donc c'est une belle fierté pour le commissaire. Au niveau, tu sais, au volume, c'est certain qu'il va toujours avoir les comparaisons avec la Ligue de l'Ouest, avec la Ligue de l'Ontario, qui, je pense, la Ligue de l'Ontario, 38 joueurs, la Ligue de l'Ouest, 33. Donc, tu sais, le 19 de la GMQ, bon, on peut le regarder un peu de haut, mais Mario Cecchini remettait tout en contexte avec les territoires américains auxquels on n'a pas vraiment accès. Il y a tout ça qui entre en ligne de compte au final, mais il soulignait que c'était une autre augmentation après deux ans après le pire total de l'histoire, là, 12 joueurs sélectionnés. Ben, on a augmenté l'an dernier, puis on a augmenté encore cette année. Est-ce que l'an prochain, ben, la tendance va se poursuivre? Ça reste à voir.
Ça semble être moins optimiste là, un peu là, comme portrait.
Ouais, mais disait quand même que le repêchage qui vient d'avoir lieu dans la LHMQ, on dit beaucoup de bien de ce repêchage-là. On a dit que de cette QV-là, comme quoi elle est très profonde. Donc d'ici 2 ans, ben, peut-être ça va se matérialiser là, dans la LHMQ. Il se disait encore confiant de revoir des années là, à 30-35 joueurs. Dans les 10 dernières années, c'est trois années au-delà de 20 joueurs, dont une seule à 30. Donc, faut peut-être ajuster nos attentes, surtout avec l'exode là, des meilleurs talents vers les États-Unis. Est-ce que les chiffres vont baisser dans les prochaines années? Ça va être à voir, mais pour l'instant, ben, on est content de ne pas avoir à expliquer du côté de la LHMQ pourquoi on a produit seulement 12, 13, 14 joueurs avec un total de 19. C'est quand même une récolte plutôt dans les eaux de ce à quoi on s'attendait.
Puis tu peux faire 19 avec des 3e ronde, 5e ronde, 8e ronde, ouais, 7e ronde, mais d'en avoir au moins 3 en première ronde, déjà là, ça,
exact.
Ça a plus de. Il y a plus de viande autour de l'os, disons, mm-hmm. de la sorte. Donc. Une bonne récolte.
4 gardiens aller. Québécois aussi, il faut le souligner.
Ouais, on est de retour, quand même, retour à la grande époque.
Ouais,
de...
ça. ça, par rapport aux joueurs, oui, il y a un cycle, mais par rapport aux gardiens, là, je pense que d'année en année, ça va vraiment aller en variant. Là. Peut-être que l'an prochain, il n'y en aura aucun. Puis,
il y en a si
je
peu.
Je ne pense pas qu'il faut tirer de conclusion avec cette année-ci, mais c'est quand même important de le souligner, quand même, 4 gardiens québécois repêchés dans les 5 premières rondes.
Ouais, ouais, ouais. Autre chose, messieurs, à dire sur le repêchage?
Ça fait tôt. Passer aux joueurs autonomes, je crois.
Ben, allons-y pour les joueurs autonomes, parce qu'on ne va pas s'étirer votre vol. C'est demain?
C'est demain. C'est demain.
Non,
c'est
ça. J'avais un peu peur, honnêtement, avec la durée du repêchage, là, que finalement, je sois dans vos eaux et pour votre vol. Joueurs autonomes, le marché des joueurs autonomes qui s'ouvre le 1er juillet. On va parler un peu des gros poissons, plus que les Canadiens peuvent, vont peut-être ou ne pourront pas réussir à faire. Bon, il y a déjà plusieurs dossiers qui se sont réglés dans les derniers jours. Sam Bennett, qui s'est entendu de retour avec les Panthers de la Floride, 8 millions pour 8 ans. On disait que c'était peut-être cash-in pour Bennett, mais il va l'avoir fait en Floride finalement. John Tavares qui accepte, je pense que c'est un contrat qui est un peu à rabais pour rester à Toronto, 4,38 millions pour 4 ans. Donc, ça va pour Tavares. On se garde un bon deuxième centre à Toronto. On garde l'espace. Pendant le deuxième centre, ça pourrait bien être Jonathan Toews du côté des Jets de Winnipeg qui a accepté un contrat d'un an. Valeur de 2 millions, mais avec les bonus de signature, c'est les bonus de performance, pas de performance, mais de match joué, tout ça. Toews, ça pourrait monter jusqu'à 7 millions. On va suivre ça, Toews. Honnêtement, j'y souhaite de retrouver la santé, de prouver qu'il est encore capable de jouer avec tous les ennuis de santé dont il a été victime. Le gros dossier, bien évidemment, c'est celui de Mitch Marner, dont le passage à Toronto semble à toute fin près terminé. Là, la question, c'est comment ça va se terminer? Parce que là, il y avait beaucoup de discussions aujourd'hui, des rumeurs au niveau de... C'est Elliot Friedman qui rapportait qu'il y aurait des discussions entre les Maple Leafs et les Golden Knights de Vegas, encore eux, pour aller chercher Marner, donc faire une transaction où on va faire signer un contrat à Marner à Toronto avant de l'échanger. Contrat de 8 ans, bien évidemment, ce serait pour Marner. Donc, c'est pas réglé. Là. Au moment où on se parle, ce n'est pas conclu. Mais êtes-vous surpris de voir Vegas encore se lancer à la trousse du meilleur joueur disponible comme ce l'est à toutes les 2 ans, on dirait?
Surpris, non. C'est typique des Golden Knights. C'est une équipe aussi qui, année après année, réussit à avoir de bonnes formations. Donc, ça reste intéressant pour les gros noms, les joueurs qui veulent aller jouer du côté de Vegas. Elliot Friedman racontait la possibilité de voir une transaction entre les Maple Leafs et les Golden Knights qui impliquerait peut-être Nicolas Roy. Ça permettrait à Mitch Marner d'obtenir un contrat de 8 ans. Donc, ça pourrait se jouer dans les prochaines heures, prochains jours. Un contrat qui risque d'être quand même assez astronomique, là, probablement 12 millions et plus pour Mitch Marner. Donc, il va avoir de la gymnastique salariale aussi à accomplir du côté des Golden Knights. Mais Marner, c'est un joueur de 90 points et plus année après année qui n'a jamais peut-être c'est le collègue Steve Simmons du côté de Toronto qui écrivait que on n'a jamais su l'apprécier à sa réelle valeur du côté des Maple Leafs et des partisans de Toronto. Donc, les Leafs vont se retrouver pas mal le bec à l'eau. Ils vont perdre un gros nom pour pratiquement rien.
Oui, mais bon, le divorce était annoncé. Hein, je pense que.
Oui, le divorce était annoncé depuis longtemps.
Comme tu dis, les partisans n'ont pas su l'apprécier, mais lui aussi, je pense, aurait aimé être un peu plus apprécié du côté de Toronto. Donc, la relation est. Je pense que ça va. Je suis curieux de voir ce que ça va donner si c'est le cas. Peu importe où il va aller, parce que là, il va y avoir plusieurs équipes qui vont cogner à la porte, mais des équipes qui peuvent être aspirantes à la Coupe Stanley. Il n'y en aurait probablement pas eu une tonne. Donc, si effectivement, et j'ai hâte de voir qui les Golden Knights vont sacrifier au niveau gymnastique. Parce qu'on le sait, les Golden Knights, puis le mot loyauté, c'est pas la meilleure qualité du côté de Vegas. Donc, c'est ça. On regarde après ça. Bon, dans les dossiers à surveiller, les gros noms, Nick Ehlers pourrait être une belle solution de remplacement, je pense, pour une équipe qui aurait voulu mettre la main sur Mitch Marner. Quand vous regardez, bon, vous regardez les joueurs, là, vous êtes une équipe sur qui vous vous attardez présentement?
Ben, tu sais, à l'attaque, moi, je regardais la liste des joueurs autonomes en ce moment, puis c'était mon choix. Si je suis un directeur général, je pense que Nick Ehlers, c'est quand même une cible très, très attrayante. 29 ans, quand même. C'est...
Sa santé te fait-tu peur?
Ben, c'est ça. Mais t'as pas... T'sais, on n'a pas un joueur parfait. C'est certain que... Mm-hmm. Il y a des antécédents de ce côté-là. Est-ce que ça permettrait peut-être à une équipe de lui offrir un peu moins d'argent? Sûrement pas, parce que c'est un marché qui va être à l'avantage des joueurs cette année.
Est-ce qu'il y a une année où ça ne l'est pas?
Ouais, non, c'est... Mais non, mais j'essayais de voir ça d'un côté de négociation, là, lui dire, ouais, t'es peut-être un peu plus à risque de subir des blessures, mais il y a une équipe qui va lui offrir un beau pactole à Nick Ehlers. Brock Besser est quand même aussi une autre cible de choix. Là, si, pour une équipe qui cherche de l'aide sur le top 6, écoute, on fait le tour de Twitter assez régulièrement, puis on dirait que dans chaque marché, tous les DG sont à la recherche de l'aide sur le top 6. Donc, le Canadien en fait partie, il ne sera pas seul dans la course. Il y a des belles options, mais le 1er juillet, il y a aussi beaucoup d'erreurs qui se commettent. Donc, ça va être intéressant de voir qui va flancher et offrir les gros dollars là, à ces joueurs-là.
Je suis curieux de voir si Ehlers ne termine pas sa course chez les Hurricanes. Parce que dans le cas des Hurricanes, on le sait, on n'a pas réussi à mettre Mikko Rantanen sous contrat. On a de l'espace sur le plafond salarial. Ehlers pourrait être un choix intéressant. Brock Besser, ben, c'est un peu la même chose. En Besser, il y a l'aspect santé, il y a l'aspect... Lui a besoin d'un nouveau départ. JF, toi de ton côté, un joueur qui te tenterait là, quand tu regardes tout ce qui est disponible?
Moi, c'est un vieux, c'est Brad Marchand. Voyons voir ce qui se passera avec les Panthers de la Floride. Est-ce que les Panthers vont réaliser un tour de magie puis réussir à convaincre Bennett et Marchand et peut-être même Aaron Ekblad? Mais Marchand, de la façon qu'il a joué en série, a démontré qu'il a encore l'étoffe pour être présent dans les grands moments. Sauf qu'apparemment, le clan Brad Marchand serait à la recherche d'un contrat de 3 ou 4 saisons avoisinant 8 millions par année. Brad Marchand a 37 ans, donc ça reste beaucoup de sous. Mais c'est un joueur qui a un ADN pour venir jouer en série. C'est un joueur qui est rassembleur aussi, aimé de ses coéquipiers. Un autre aussi parmi les attaquants, j'haïs pas Michael Granlund. C'est un joueur de centre d'une soixantaine de points. Il peut jouer à l'aile également. Granlund, c'est un centre gaucher. C'est le profil que le CH aussi pourrait rechercher, mais c'est pas l'unique équipe qui va se chercher un deuxième centre.
Encore une fois, JF, scrap ma transition. Alors, j'allais en parler, faire le saut.
Je ferais juste une petite prédiction pour Marchand. Là. Si c'est pas la Floride, là, je pense que les Maple Leafs seraient très agressifs parce que je me souviens, après l'élimination des Maple Leafs, après le match 7 à Toronto, Brad Marchand est allé d'un discours enflammé à la défense des Maple Leafs, puis à quel point c'était une meilleure équipe, que ça avait juste pas fonctionné et tout ça. Donc, ce qui préparait le terrain pour recevoir une offre éventuellement, tu sais, avec le départ éventuel de Marner, ben il y a quand même de l'argent disponible du côté de Toronto. Fait que, écoute, pour une Marner... équipe qui a de la misère en série, un joueur comme Brad Marchand avec ce qu'il vient de faire ce printemps, je pense que ça peut être très, très attrayant.
Marner touchait 12 millions, Tavares touchait 11 millions, va en toucher 4,5 environ. Soudainement, ça veut dire, écoute, pas loin de 20 millions qui se libèrent. Oui, effectivement, les demandes salariales de Brad Marchand sont exponentielles à cause des succès qu'il y a eu en séries éliminatoires. Mais s'il y a une équipe qui est capable de tomber dans la panique et lui offrir une telle offre, ce sont les Maple Leafs en ce moment.
Ça cadre avec leurs besoins aussi de joueurs capables de livrer la marchandise en série qui a déjà gagné et tout ça. Donc,
mais pendant combien de temps encore Marchand peut le faire?
C'est ça.
Sa question.
Je suis pas d'accord avec la durée montant, mais si on parle simplement du joueur et de ce qu'il apporterait à cette équipe-là, c'est le match parfait. Après ça, ben si les Leafs veulent dépenser autant d'argent pour un joueur de 37 ans, ben...
Faut pas oublier que Bradley Marchand grandit comme partisan des Maple Leafs de Toronto. Donc, les Maple Leafs peuvent jouer cette carte.
Un autre qui a des photos en pyjama, les Maple Leafs.
Exact.
Ça n'a pas fonctionné la première fois, les pyjamas, on verra bien. Pour la prochaine, c'est que, bon, les Canadiens, on le sait, il est où? Le trou, il est au centre du deuxième trio. Ça prend un joueur de deuxième centre. Et si Kent Hughes et Jeff Gordon ne sont pas capables d'aller en chercher un par transaction sur le marché des joueurs autonomes, ça ne sera pas facile parce que les deux meilleures options, des centres là, de grande qualité, il n'y en a pas une tonne de disponibles. T'sais, qu'est-ce que Claude Giroux peut encore donner à une équipe? Est-ce que Claude Giroux peut encore mener une équipe en séries éliminatoires? Parce que on s'entend, Giroux ne va pas signer pour seulement un an, va signer pour 2-3 ans, le même type d'entente qu'il avait eu avec les Sénateurs il y a 37 ans, donc on va demander au moins 2 ans probablement. Tu as parlé de Granlund, JF. Ça semble être, je trouve, la cible parfaite un peu, là, responsable, capable de jouer un peu offensif, capable de livrer la marchandise. T'es sur le premier trio des Sharks cette année. Tu me diras, ça veut absolument rien dire jouer sur le premier trio des Sharks cette année. Mais bon, il le faisait, il amassait des points. C'est un gars responsable. C'est un gars que tu peux placer avec un Demidov, avec un Laine, qui va pouvoir réparer les gaffes en arrière. Mais bon, tu veux lui offrir combien à Granlund si t'es directeur général, JF?
Ben, il n'y a pas juste le combien, il y a l'âge aussi de Granlund. Ouais. Granlund a 33 ans. D'après moi, c'est un minimum de 5-6 millions. Là. Dans le contexte actuel, ça pourrait être l'année aussi des contrats désastreux. Il ne faut pas oublier que le plafond augmente considérablement pour les 3 prochaines saisons. Ça risque d'être la pêche aux gros poissons, puis avec un budget encore plus grand pour les 32 équipes. Donc, tu peux tomber aussi dans le piège du mauvais contrat. Mais c'est vrai que Granlund peut jouer au centre, peut jouer à l'aile. C'est un joueur qui est gaucher aussi. Les centres chez le Canadien, Suzuki est droitier, Jake Evans est droitier. Il y a plus de droitiers présentement que de gauchers. Oui, peut être intéressant, mais il y a d'autres équipes qui seront dans la course pour Mikael Granlund. Il ne faut pas oublier aussi, je crois que le CH pourrait se lancer à la recherche d'ailier de quatrième trio. On en parlait tantôt. Ça reste que ça devient mince pour le quatrième trio. Tu ne peux pas non plus faire uniquement confiance à des recrues. Donc, un joueur d'expérience qui peut jouer à l'aile, qui peut venir remplir des mandats défensifs, je ne tomberai pas en bas de ma chaise si Kent Hughes et Jeff Gorton en attirent un.
Je verrais peut-être plus un scénario du côté du Canadien pour combler le trou sur le top 6, là, au centre du deuxième trio ou à l'aile du deuxième trio. Je verrais peut-être plus une transaction. Tu sais, tantôt, on parlait de Logan Mailloux et compagnie. Tu sais, on s'entend que là, il va y avoir du trafic pour un joueur de deuxième centre parce que toutes les équipes en veulent un bon. Puis les options, comme tu disais, Nick, sont assez minces. Fait que je verrais peut-être plus une transaction au hockey.
De regarder les options au niveau des centres. Puis Christian Vorak est la quatrième meilleure option. Donc,
c'est ça.
Puis il y a eu une super belle saison de Vorak, mais je veux dire, s'il n'a pas réussi à devenir deuxième centre, dans toutes ces années à Montréal, ne va pas soudainement devenir. Là.
Non, non, mais il faut quand même verrais, que tu mettes en place.
Je suis quand même d'accord avec ce que Jeff disait par rapport à la profondeur que tu peux aller chercher sur le marché des joueurs autonomes. Je pense que c'est un petit peu plus facile d'aller chercher des joueurs de troisième, quatrième, aller chercher beaucoup de profondeur, parce que tu regardes ça en ce moment, tu sais, Owen Beck fait quand même partie des plans pour la prochaine saison. Est-ce que tu es rendu au stade où tu préfères attendre qu'Owen Beck soit vraiment prêt, ou tu es prêt à lui donner la chance de se développer tranquillement? Ce sont toutes des questions que le Canadien devra se poser, mais je verrais davantage une transaction hockey pour le top 6 et du petit magasinage là, du côté de la profondeur.
Aller chercher un centre qui a peut-être un mauvais contrat, payer un peu plus cher, puis laisser l'autre équipe aller faire une gaffe après ça sur les joueurs autonomes. C'est une possibilité, comme tu as dit, ça pourrait être... toi ou GF qui a dit que ça pourrait être l'été des mauvais contrats.
Oui, mais dans les départs anticipés aussi, vous avez parlé de Christian Vorak, mais il y a aussi Joel Armia. Donc, quand on parle de joueurs de profondeur, d'infériorité numérique, le CH aura des trous à remplir.
Alors, on va avoir plus de réponses tout ça le 1er juillet. À partir de midi, ça commence la couverture du marché des joueurs autonomes. Allez sur lnh.com. On va avoir du contenu mur à mur de la part de tout le monde, dont vous deux, JF et Guillaume. On va aussi se parler. On va avoir un balado le lendemain, le 2 juillet. On va faire un bilan de tout ce qui va s'être passé. Et comme je disais, ça va être notre dernier de l'année avant des belles vacances estivales. En plus, si on est chanceux, Guillaume va avoir son micro, contrairement à aujourd'hui. Donc, ça va... On va avoir Guillaume en stéréo, si je peux dire.
Peu que personne n'avait remarqué, Nick.
Non.
On verra dans le feedback.
Ben, c'est ça. comme si les commentaires pleuvaient, mais oui.
Écrivez-nous. Si le son était mauvais, écrivez-nous. Ouais,
c'est ça. Mais pauvre Guillaume qui s'est retrouvé à l'aéroport d'Orval en se rendant compte que le micro était rendu. Restez à la maison. Ça arrive et c'est comme ça, puis c'est pas plus grave que ça.
On commence à être un peu fatigué. Là, on oublie des choses.
Ouais. Non, non,
j'avais oublié ma ceinture, d'ailleurs, pour la première ronde du repêchage. Donc, c'est le temps d'avoir un peu de repos, je pense.
Pas retrouver les culottes à terre, toujours?
Non. Non, voilà. Même... Ça s'est bien déroulé.
C'est mieux comme ça pour tout le monde. Guillaume, merci d'avoir été là aujourd'hui. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se reparle très bientôt.